Chapitre 20 de la séance royale du 23 juin 1789. Le conseil secret du roi différait entièrement de son ministère ostensible. Il y avait bien quelques ministres de l'avis du conseil secret, mais le chef reconnu de l'administration, M. Necker, était précisément celui contre lequel les privilégiés dirigeaient leurs efforts. En Angleterre, la responsabilité des ministres met obstacle à ce double gouvernement des affidés du roi et de ses agents officiels. Aucun acte du pouvoir royal n'étant exécuté sans la signature d'un ministre, et cette signature pouvant coûter la vie à celui qui la donne à tort, quand le roi serait entouré de chambellans qui prêcheraient le pouvoir absolu, aucun de ces chambellans même ne se risquerait à faire, comme ministre, ce qu'il soutiendrait comme courtisan. Il n'en était pas ainsi de la France. On faisait venir, à l'insu du ministre principal, des régiments allemands, parce qu'on n'était pas assez sûr des régiments français. L'on se persuadait qu'avec cette troupe étrangère, on viendrait à bout de l'opinion dans un pays tel qu'était alors l'illustre France. Le baron de Breteuil, qui aspirait à remplacer M. Necker, était incapable de comprendre autre chose que l'ancien régime. Et encore, dans l'ancien régime, ses idées ne s'étaient jamais étendues au-delà des cours, soit en France, soit dans les pays étrangers, où il avait été envoyé comme ambassadeur. Il avait revêtu son ambition des formes de la bonhomie. Il serrait la main, à la manière anglaise, à tous ceux qu'il rencontrait, comme s'il eût dit à chacun « Je voudrais être ministre, quel mal cela vous fait-il ?» À force de répéter qu'il voulait être ministre, on y avait consenti, et il avait aussi bien gouverné qu'un autre, quand il ne s'agissait que de signer le travail ordinaire, que les commis apportaient tout fait à leur chef. Mais, dans la grande circonstance dont je vais parler, il fit, par ses conseils, un mal affreux à la cause du roi. Son gros son de voix ressemblait à de l'énergie. Il marchait à grand bruit, en frappant du pied, comme s'il avait voulu faire sortir de terre une armée. Et toutes ses manières décidées faisaient illusion à ceux qui avaient foi à leurs propres désirs. Quand M. Necker disait au roi et à la reine « Êtes-vous assuré de l'armée ?» on croyait voir dans ce doute un sentiment factieux, car l'un des traits qui caractérise le parti des aristocrates en France, c'est d'avoir pour suspecte la connaissance des faits. Les faits, qui sont opiniâtres, se sont en vain soulevés 10 fois contre les espérances des privilégiés. Toujours, ils les ont attribués à ceux qui les ont prévus, mais jamais à la nature des choses. 15 jours après l'ouverture des États généraux, avant que le tiers-État se fût constitué Assemblée nationale, lorsque les deux partis ignoraient encore leurs forces réciproques et qu'ils s'adressaient tous les deux au gouvernement pour requérir son appui, M. Necker présenta au roi un tableau de la situation de la monarchie. « Sire, lui dit-il, je crains qu'on ne vous trompe sur l'esprit de votre armée. La correspondance des provinces nous fait croire qu'elle ne marchera pas contre les États généraux. Ne la faites donc point approcher de Versailles, comme si vous aviez l'intention de l'employer hostilement contre les députés. Le Parti populaire ne sait point encore positivement quelle est la disposition de cette armée. Servez-vous de cette incertitude même pour maintenir votre autorité dans l'opinion. Car si le fatal secret de l'insubordination des troupes était connu, comment serait-il possible de contenir les esprits factieux ? Ce dont il s'agit maintenant, sire, c'est d'accéder aux vœux raisonnables de la France. Daignez vous résigner à la Constitution anglaise. Vous n'éprouverez personnellement aucune contrainte par le règne des lois, car jamais elles ne vous imposeront autant de barrières que vos propres scrupules. Et, en allant au-devant des désirs de votre nation, vous accorderez encore aujourd'hui ce que peut-être elle exigera demain. » À la suite de ces observations, M. Necker remit le projet d'une déclaration qui devait être donnée par le roi un mois plus tôt que le 23 juin, c'est-à-dire longtemps avant que le tiers-État se fût déclaré Assemblée nationale, avant le serment du jeu de paume, enfin avant que les députés eussent pris aucune mesure hostile. Les concessions du roi avaient alors plus de dignité. La déclaration, telle que l'avait rédigée M. Necker, était presque mot pour mot semblable à celle qui fut donnée par Louis XVIII à Saint-Ouen le 2 mai 1814. C'est dans ce même lieu, Saint-Ouen, que mon père a passé sa vie. Je ne puis m'empêcher, tout puéril qu'est ce rapprochement, d'en être frappé. À Saint-Ouen, le 2 mai 1814, 25 années après l'ouverture des États généraux. N'est-il pas permis de croire que le cercle sanglant de ces 25 années n'aurait pas été parcouru si l'on avait consenti dès le premier jour à ce que la nation voulait alors et ne cessera point de vouloir? Un moyen ingénieux assurait le succès de la proposition de M. Necker. Le roi devait ordonner le vote par tête en matière d'impôts, et ce n'était que sur les intérêts, sur les affaires et les privilèges de chaque ordre qu'ils étaient appelés à délibérer, séparément, avant que la Constitution fût établie. Le tiers-État, ne s'étant point encore assuré du vote par tête, eût été reconnaissant de l'obtenir en matière d'impôts, ce qui était de toute justice. Car se figure-t-on des États généraux dans lesquels la majorité, c'est-à-dire les deux ordres privilégiés, qui comparativement ne payaient presque rien, auraient décidé des taxes que la minorité, le tiers-État, devait acquitter en entier? Le roi déclarait aussi dans le projet de M. Necker que, relativement à l'organisation future des États généraux, il ne sanctionnerait qu'un corps législatif en deux chambres. Venaient ensuite différentes propositions populaires en finances et en législation, qui auraient achevé de concilier l'opinion en faveur de la déclaration royale. Le roi l'adopta tout entière, et dans le premier moment, il est sûr qu'il l'approuvait. M. Necker fut cette fois au comble de l'espérance, car il se flattait de faire accepter ce plan sagement combiné à la majorité des députés du tiers, quoique les plus exagérés fussent disposés à repousser tout ce qui viendrait de la cour. Tandis que M. Necker exposait volontiers sa popularité en se déclarant le défenseur d'une chambre haute, les aristocrates se croyaient au contraire dépouillés par cette institution. Chaque parti, depuis 25 ans, a repoussé et regretté tour à tour la Constitution anglaise, suivant qu'il était vainqueur ou vaincu. La reine dit en 1792 au chevalier de Coigny : « Je voudrais qu'il m'en eût coûté un bras et que la Constitution anglaise fût établie en France. » Les nobles n'ont cessé de l'invoquer quand on les a dépouillés de toute leur existence. Et le Parti populaire, sous Bonaparte, se serait sûrement trouvé très heureux de l'obtenir. On dirait que la Constitution anglaise, ou plutôt la raison, en France, est comme la belle Angélique dans la comédie du joueur. Il l'invoque dans sa détresse et la néglige quand il est heureux. M. Necker attachait la plus grande importance à ce que le roi ne perdît pas un instant pour interposer sa médiation au milieu des débats des trois ordres. Mais le roi se tranquillisait sur la popularité de son ministre, croyant qu'il serait toujours temps d'y avoir recours s'il le fallait. C'était une grande erreur. M. Necker pouvait aller jusqu'à tel point, il pouvait mettre telle borne aux prétentions des députés du tiers, en leur accordant telle chose qu'il ne se croyait pas encore sûr d'obtenir. Mais s'il avait abjuré ce qui faisait sa force, la nature même de ses opinions, il aurait eu moins d'influence que tout autre homme. Un parti dans les députés du tiers, celui dont Mounier et Malouet étaient les chefs, se concertait avec M. Necker. Mais l'autre voulait une révolution et ne se contentait pas de recevoir ce qu'il aimait mieux conquérir. Pendant que M. Necker luttait avec la cour en faveur de la liberté nationale, il défendait l'autorité royale et les nobles eux-mêmes contre le tiers-État. Toutes ses heures et toutes ses facultés étaient consacrées à prémunir le roi contre les courtisans, et les députés contre les factieux. N'importe, dira-t-on, puisque M. Necker n'a pas réussi, c'est qu'il n'a pas été assez habile. Depuis 13 années, 5 de ministère et 8 de retraite, M. Necker s'était soutenu au plus haut point de la faveur populaire. Il en jouissait encore à un tel degré que la France entière fut soulevée à la nouvelle de son exil. En quoi donc a-t-il jamais rien perdu par sa faute? Et comment, je ne saurais assez le répéter, peut-on rendre un homme responsable des malheurs qui sont arrivés pour n'avoir pas suivi ses conseils? Si la monarchie a été renversée parce que le système contraire au sien a été adopté, n'est-il pas probable qu'elle eût été sauvée si le roi ne s'était pas écarté de la route dans laquelle il avait marché depuis le retour de M. Necker au ministère? Un jour très prochain était choisi pour la séance royale, lorsque les ennemis secrets de M. Necker déterminèrent le roi à faire un voyage à Marly. Ces jours où l'opinion publique se faisait encore moins entendre qu'à Versailles. Les courtisans se placent d'ordinaire entre le prince et la nation, comme un écho trompeur qui altère ce qu'il répète. M. Necker raconte que, le soir du Conseil d'État dans lequel la séance royale devait être fixée pour le lendemain, un billet de la reine engagea le roi à sortir du Conseil, et la délibération fut renvoyée au jour suivant. Alors 2 magistrats de plus furent admis à la discussion, ainsi que les 2 princes, frères du roi. Ces magistrats ne connaissaient que les anciennes formes, et les princes, jeunes alors, se confiaient trop dans l'armée. Le parti qui se donnait pour défenseur du trône parlait avec beaucoup de dédain de l'autorité du roi d'Angleterre. Il voulait faire considérer comme un attentat la pensée de réduire un roi de France au misérable sort du monarque britannique. Non seulement cette manière de voir était erronée, mais peut-être même n'était-elle inspirée que par des calculs égoïstes. Car dans le fait, ce n'est pas le roi, mais les nobles, et surtout les nobles de seconde classe, qui, selon leur manière de voir, devaient perdre à n'être que les citoyens d'un pays libre. Les institutions anglaises n'auraient diminué ni les jouissances du roi, ni l'autorité dont il voulait et pouvait user. Ces institutions ne portaient pas atteinte non plus à la dignité des premières familles historiques de France. Au contraire, en les plaçant dans la chambre des pairs, on leur donnait des prérogatives plus assurées et qui les séparaient plus distinctement du reste de leur ordre. Ce n'étaient donc que des privilégiés de la seconde classe de la noblesse et la puissance politique du haut clergé qu'il fallait sacrifier. Les parlements aussi craignaient de perdre les pouvoirs contestés auxquels ils avaient eux-mêmes renoncé, mais qu'ils regrettaient toujours. Peut-être même prévoyaient-ils d'avance l'institution des jurés, cette sauvegarde de l'humanité dans l'exercice de la justice. Mais, encore une fois, les intérêts des corps n'étaient point unis à ceux de la prérogative royale, et, en voulant les rendre inséparables, les privilégiés ont entraîné le trône dans leur propre chute. Leur intention n'était sûrement pas de renverser la monarchie, mais ils ont voulu que la monarchie triomphât par eux et avec eux. Tandis que les choses en étaient venues au point qu'il fallait sacrifier sincèrement et clairement ce qui était impossible à défendre, pour sauver ce qui pouvait être maintenu. Telle était l'opinion de M. Necker, mais elle n'était point partagée par les nouveaux membres du Conseil du roi. Ils proposèrent divers changements, tous conformes aux passions de la majorité des privilégiés. M. Necker lutta plusieurs jours contre les nouveaux adversaires qu'on lui opposait, avec une énergie étonnante dans un ministre qui désirait certainement de plaire au roi et à sa famille. Mais il était si convaincu de la vérité de ce qu'il affirmait qu'il montra dans cette circonstance une décision imperturbable. Il prédit la défection de l'armée si l'on avait besoin d'y avoir recours contre le parti populaire. il annonça que le roi perdrait tout son ascendant sur le tiers-état, par l'esprit dans lequel on voulait rédiger la déclaration. Enfin, il indiqua respectueusement qu'il ne pouvait prêter son appui à un projet qui n'était pas le sien, et dont les suites, selon lui, seraient funestes. On ne voulait pas condescendre au conseil de M. Necker, mais on aurait souhaité que sa présence à la séance royale fit croire aux députés du peuple qu'il approuvait la démarche adoptée par le conseil du roi. M. Necker s'y refusa, en envoyant sa démission. Cependant, disaient les aristocrates, une partie du plan de M. Necker était conservée. Sans doute, il restait, dans la déclaration du 23 juin, quelques-unes des concessions que la nation désirait. La suppression de la taille, l'abolition des privilèges en matière d'impôts, l'admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires, etc. Mais en un mois, les choses avaient bien changé. On avait laissé le tiers-état grandir assez pour qu'il ne fût plus reconnaissant des concessions qu'il était certain d'obtenir. M. Necker voulait que le roi commençât par accorder la délibération par tête en matière d'impôts, dès les premiers mots de son discours. Alors le tiers-état aurait cru que la séance royale avait pour but de soutenir ses intérêts, et cela aurait suffi pour le captiver. Mais dans la rédaction nouvelle qu'on avait fait accepter au roi, le premier article cassait tous les arrêtés que le tiers-état avait pris comme assemblée nationale et qu'il avait consacrés par le serment du jeu de paume. Avant tous ces engagements contractés par le tiers-état envers l'opinion, M. Necker avait proposé la séance royale. Était-il sage d'accorder beaucoup moins au Parti populaire quand il était devenu plus puissant encore dans l'espace de temps que la cour avait perdu en incertitude? L'à-propos et la nymphe égérie des hommes d'État, des généraux, de tous ceux qui ont affaire à la mobile nature de l'espèce humaine. Un coup d'autorité contre le tiers-État n'était pas possible, le 23 juin 1789, et c'était plutôt aux nobles que le roi devait commander. Car le point d'honneur des nobles peut consister dans l'obéissance. C'est un des statuts de l'ancienne chevalerie que de se soumettre au roi comme à des chefs militaires. Mais l'obéissance implicite du peuple n'est que de la suggestion, et l'esprit du siècle n'y portait plus. Le trône ne peut être solidement appuyé de nos jours que sur le pouvoir de la loi. Le roi ne devait pas sacrifier la popularité qu'il avait acquise en accordant le doublement du tiers. Elle valait mieux pour lui que toutes les promesses de ses courtisans. Mais il la perdit par sa déclaration du 23 juin. Et quoique cette déclaration contint de très bonnes choses, elle manqua totalement son effet. Les premières paroles révoltèrent le tiers-état. Et dès ce moment, il n'écouta plus tout ce qu'il aurait bien accueilli, s'il avait pu croire que le monarque voulait défendre la nation contre les prétentions des privilégiés, et non les privilégiés contre les intérêts de la nation. Chapitre 21. Des événements causés par la séance royale du 23 juin 1789. Les prédictions de M. Necker ne furent que trop réalisées, et cette séance royale, contre laquelle il s'était élevé avec tant de force, eut des suites plus déplorables encore que celles qu'il avait prévues. À peine le roi fut-il sorti de la salle que le tiers-état, resté seul en permanence, déclara qu'il continuerait ses délibérations sans avoir égard à ce qui venait de se passer. Le mouvement était donné. La séance royale, loin d'atteindre le but qu'on se proposait, avait augmenté l'élan du tiers-état en lui offrant l'occasion d'un nouveau triomphe. Le bruit de la démission de M. Necker se répandit, et toutes les rues de Versailles furent remplies à l'instant par les habitants de la ville, qui proclamaient son nom. Le roi et la reine le firent appeler le soir même de la séance royale. Ils lui demandèrent tous les deux, au nom du salut de l'État, de reprendre sa place. la reine ajouta que la sûreté de la personne du roi était attachée à ce qu'il restât ministre. Pouvait-il ne pas obéir ? La reine s'engagea solennellement à ne plus suivre que ses conseils. Telle était alors sa résolution, parce que le mouvement populaire l'avait émue. Mais, comme elle était toujours convaincue que toute limite donnée à l'autorité royale était un malheur, elle devait nécessairement tomber sous l'influence de ceux qui pensaient comme elle. Le roi, l'on ne saurait trop le dire, avait toutes les vertus nécessaires pour être un monarque constitutionnel, car un tel monarque est plutôt le magistrat suprême que le chef militaire de son pays. Mais quoiqu'il eût beaucoup d'instruction, et qu'il lût, surtout avec intérêt, les historiens anglais, le descendant de Louis XIV avait de la peine à se départir de la doctrine du droit divin. Elle est considérée en Angleterre comme un crime de lèse-majesté, puisque c'est d'après un pacte avec la nation que la dynastie actuelle a été appelée au trône. Mais, bien que Louis XVI ne fût nullement porté par son caractère à désirer le pouvoir absolu, ce pouvoir était un préjugé funeste, auquel, malheureusement pour la France et pour lui, il n'a jamais renoncé tout à fait. M. Necker, vaincu par les instances que le roi et la reine daignèrent lui faire, promit de rester ministre et ne parla plus que de l'avenir. Il ne dissimula point les dangers de la situation des affaires. Néanmoins, il dit qu'il se flattait encore d'y remédier, pourvu qu'on ne fît pas venir les troupes autour de Paris, si l'on n'était pas certain de leur obéissance. Dans ce cas, il demandait à quitter le ministère, ne pouvant plus que faire des vœux pour le roi dans sa retraite. Il ne restait plus que trois moyens pour prévenir la crise politique dont on était menacé. L'espoir que le tiers-État fondait encore sur les dispositions personnelles du roi. L'inquiétude vague du parti que prendraient les troupes, inquiétude qui pouvait encore contenir les factieux. Enfin, la popularité de M. Necker. Nous allons voir comment ces ressources furent perdues en 15 jours, par les conseils du comité auquel la cour s'abandonnait en secret. En retournant de chez le roi à sa maison, M. Necker fut porté en triomphe par le peuple. De si vifs transports sont encore présents à mon souvenir, et raniment en moi l'émotion qu'ils m'ont causée dans ces beaux temps de jeunesse et d'espérance. Toutes ces voix qui répétaient le nom de mon père me semblaient celles d'une foule d'amis qui partageaient ma respectueuse tendresse. Le peuple ne s'était encore souillé d'aucun crime. Il aimait son roi, il le croyait trompé, et chérissait le ministre qu'il considérait comme son défenseur. Tout était bon et vrai dans son enthousiasme. Les courtisans ont tâché de faire croire que M. Necker avait préparé cette scène. Quand on l'aurait voulu, comment aurait-on pu faire naître, par de sourdes menées, de semblables mouvements dans une telle multitude ? La France entière s'y associait. Les adresses des provinces arrivaient de toutes parts, et c'était alors des adresses qui exprimaient le vœu général. Mais un des grands malheurs de ceux qui vivent dans les cours, c'est de ne pouvoir se faire l'idée de ce que c'est qu'une nation. Ils attribuent tout à l'intrigue, et cependant, l'intrigue ne peut rien sur l'opinion publique. On a vu, durant le cours de la Révolution, des factieux agitaient tel ou tel parti. Mais en 1789, la France était presque unanime, et vouloir lutter contre ce colosse par la seule puissance des dignités aristocratiques, c'était se battre avec des jouets contre des armes. La majorité du clergé, la minorité de la noblesse, tous les députés du tiers, se rendirent auprès de M. Necker à son retour de chez le roi. Sa maison pouvait à peine contenir ceux qui s'y étaient réunis. Et c'est là qu'on voyait ce qu'il y a de vraiment aimable dans le caractère des Français, la vivacité de leurs impressions, leur désir de plaire, et la facilité avec laquelle un gouvernement peut les captiver ou les révolter, selon qu'ils s'adressent bien ou mal au génie d'imagination dont ils sont susceptibles. J'entendais mon père conjurer les députés du tiers de ne pas porter trop loin leurs prétentions. « Vous êtes les plus forts maintenant, disait-il. C'est donc à vous que convient la sagesse. » Il leur peignit l'état de la France et le bien qu'ils pouvaient faire. Plusieurs pleuraient et lui promettaient de se laisser guider par ses conseils. Mais il lui demandait aussi de leur répondre des intentions du roi. La puissance royale inspirait encore non seulement du respect, mais un reste de crainte. C'était ces sentiments qu'il fallait ménager. 150 ecclésiastiques, parmi lesquels se trouvaient des prélats d'un ordre supérieur, avaient déjà passé à l'Assemblée nationale. 47 membres de la noblesse, placés pour la plupart au premier rang par leurs talents et leurs naissances, les avaient suivis. Plus de 30 autres n'attendaient que la permission de leurs commettants pour s'y joindre. Le peuple demandait à grands cris la réunion des trois ordres, et il insultait les nobles et les ecclésiastiques qui se rendaient dans leurs chambres séparées. M. Necker alors proposa au roi d'ordonner au clergé et à la noblesse de délibérer avec le tiers, afin de leur sauver l'anxiété pénible dans laquelle ils se trouvaient, et de leur ôter l'embarras d'avoir l'air de céder à la puissance du peuple. Cette injonction du roi produisit encore un effet étonnant sur l'esprit public. On sut gré à l'autorité de sa condescendance, bien qu'elle y fût presque forcée. On accueillit la majorité de la Chambre des nobles, quoique l'on sût qu'elle avait signé une protestation contre la démarche même qu'elle faisait. L'espoir du bien se ranima. Et Mounier, qui était le rapporteur du comité de constitution, déclara qu'il proposerait un système politique presque en tout semblable à celui de la monarchie anglaise. En comparant donc l'état des choses et des esprits à la fermentation terrible qui s'était manifestée le soir du 23 juin, on ne pouvait nier que M. Necker n'eût remis une seconde fois les rênes du gouvernement entre les mains du roi, comme après le renvoi de l'archevêque de Sens. Le trône sans doute était ébranlé, mais il était encore possible de le raffermir en évitant avant tout une insurrection, puisque cette insurrection devait l'emporter sur les moyens qui restaient au gouvernement pour y résister. Mais les mauvais succès du 23 juin ne découragèrent point ceux qui les avaient amenés, et pendant qu'on laissait M. Necker diriger les démarches extérieures du roi, le même comité secret lui conseillait de feindre d'acquiescer à tout, jusqu'à ce que les troupes allemandes commandées par le maréchal de Breuil fussent près de Paris. L'on se garda bien d'avouer à M. Necker qu'on leur avait ordonné de venir pour dissoudre l'Assemblée. On prit pour prétexte de cet ordre, lorsqu'il fut connu, des troubles partiels dont Paris avait été le théâtre, et dans lesquels les gardes françaises, appelées pour rétablir l'ordre, avait manifesté l'insubordination la plus complète. M. Necker n'ignorait pas le véritable objet pour lequel on faisait avancer les troupes, bien qu'on voulût le lui cacher. L'intention de la cour était de réunir à Compiègne tous les membres des trois ordres qui n'avaient point favorisé le système des innovations, et là, de leur faire consentir à la hâte les impôts et les emprunts dont elle avait besoin, afin de les congédier ensuite. Comme un tel projet ne pouvait être secondé par M. Necker, on se proposait de le renvoyer dès que la force militaire serait rassemblée. 50 avis par jour l'informaient de sa situation, et il ne lui était pas possible d'en douter. Mais, ayant vu l'effet violent qu'avait produit le 23 juin la nouvelle de sa démission, il était décidé à ne pas exposer la chose publique à une nouvelle secousse. Car ce qu'il redoutait le plus au monde, c'était d'obtenir un triomphe personnel aux dépens de l'autorité du roi. Ses partisans, effrayés des ennemis dont il était environné, le conjuraient de se retirer. Il savait qu'il était question de le mettre à la Bastille, mais il savait aussi que, dans les circonstances où l'on se trouvait alors, il ne pouvait quitter sa place sans confirmer les bruits qui se répandaient sur les mesures violentes que l'on préparait à la cour. Le roi s'étant résolu à ces mesures, M. Necker ne voulut pas y prendre part. Mais il ne voulait pas non plus donner le signal de s'y opposer. Il restait là comme une sentinelle qu'on laissait encore à son poste pour tromper les attaquants sur la manœuvre. Le parti populaire, ne comprenant que trop bien ce qu'on méditait contre lui et ne se résignant pas, comme M. Necker, à en être la victime, Mirabeau fit adopter à l'Assemblée nationale sa fameuse adresse pour le renvoi des troupes. C'était la première fois que la France entendait cette éloquence populaire, dont la puissance naturelle était augmentée par la grandeur des circonstances. Le respect pour le caractère personnel du roi se faisait encore remarquer dans cette harangue tribunicienne. « Et comment s'y prend-on, sire ? » disait l'orateur de la Chambre, « pour vous faire douter de l'attachement et de l'amour de vos sujets. Avez-vous prodigué leur sang ? Êtes-vous cruel, implacable ? Avez-vous abusé de la justice ? Le peuple vous impute-t-il ses malheurs ? Vous nomme-t-il dans ses calamités ? Ne croyez pas ceux qui vous parlent légèrement de la nation et qui ne savent que vous la représentez selon leur vue, tantôt insolente, rebelle, séditieuse, tantôt soumise, docile aux joug, prompte à courber la tête pour le recevoir. Ces deux tableaux sont également infidèles. Toujours prêts à vous obéir, sire, parce que vous commandez au nom des lois. Notre fidélité est sans borne comme sans atteinte. Sire, nous vous en conjurons au nom de la patrie, au nom de votre bonheur et de votre gloire. Renvoyez vos soldats au poste d'où vos conseillers les ont tirés. Renvoyez cette artillerie destinée à couvrir vos frontières. Renvoyez surtout les troupes étrangères, ces alliés de la nation, que nous payons pour défendre et non pour troubler nos foyers. Votre Majesté n'en a pas besoin. Et pourquoi un monarque adoré de 25 millions de Français ferait-il accourir à grands frais autour du trône, quelques milliers d'étrangers ? Sire, au milieu de vos enfants, soyez gardés par leur amour. » Ces paroles sont la dernière lueur de l'attachement que les Français devaient à leur roi pour ses vertus personnelles. Quand la force militaire fut essayée, et le fut vainement, le pouvoir et l'amour semblèrent s'éclipser ensemble. M. Necker continua d'aller tous les jours chez le roi, mais rien de sérieux ne lui fut jamais communiqué. Ce silence envers le ministre principal était bien inquiétant, car de toutes parts on voyait arriver des régiments étrangers qui se plaçaient autour de Paris et de Versailles. Mon père nous disait confidentiellement chaque soir qu'il s'attendait à être arrêté le lendemain, mais que le danger auquel le roi s'exposait était si grand à ses yeux qu'il se faisait une loi de rester, pour n'avoir pas l'air de soupçonner ce qui se passait. Le 11 juillet, à 3 heures après-midi, M. Necker reçut une lettre du roi qui lui ordonnait de quitter Paris et la France, et lui recommandait seulement de cacher à tout le monde son départ. Le baron de Breteuil avait été d'avis, dans le comité, d'arrêter M. Necker, parce que son renvoi devait causer une émeute. « Je réponds, dit le roi, qu'il obéira strictement au secret que je lui demanderai. » M. Necker fut touché de cette confiance dans sa probité, bien qu'elle fût accompagnée d'un ordre d'exil. Il sut, depuis, que 2 officiers des gardes du corps l'avaient suivi pour s'assurer de sa personne, s'il ne s'était pas soumis à l'injonction du roi. Mais à peine purent-ils arriver aussi vite à la frontière que M. Necker lui-même. Madame Necker fut sa seule confidente. Elle partit, au sortir de son salon, sans aucun préparatif de voyage, avec les précautions que prendrait un criminel pour échapper à sa sentence. Et cette sentence, si redoutée, c'était le triomphe que le peuple préparait à M. Necker, s'il avait voulu s'y prêter. 2 jours après son départ, dès que sa disgrâce fut connue, les spectacles furent fermés, comme pour une calamité publique. Tout Paris prit les armes. La première cocarde que l'on porta fut verte, parce que c'était la couleur de la livrée de M. Necker. On frappa des médailles à son effigie, et, s'il s'était rendu à Paris, au lieu de sortir de France par la frontière la plus rapprochée, celle de Flandre, on ne peut pas assigner de terme à l'influence qu'il aurait acquise. Certainement, le devoir lui commandait d'obéir à l'ordre du roi. Mais quel est celui qui, tout en obéissant, ne se serait pas laissé reconnaître, ne se serait pas laissé ramener malgré lui par la multitude? L'histoire n'offre peut-être pas d'exemple d'un homme évitant le pouvoir avec le soin qu'on mettrait à fuir la proscription. Car il fallait être à la fois le défenseur du peuple pour être banni de cette manière, et le plus fidèle sujet du monarque pour lui sacrifier si scrupuleusement les hommages d'une nation entière.